Ce matin, je suis allé faire les courses. Et dans mon quartier, il y a plusieurs commerces qui sont les uns à côté des autres. Et la procédure aujourd'hui, c'est la même. Il faut faire la queue. Il faut pas qu'il y ait plus de trois personnes dans le magasin. Et il faut se désinfecter les mains à l'entrée. Et ça fonctionne très bien. Tout le monde est discipliné, pas de problème. Mais j'ai été surpris de voir à l'entrée dans des magasins. Il y avait une table, il y avait un responsable qui nous regardait avec un petit air sévère, il y avait un gros écriteau, masque obligatoire. Donc pour entrer dans ce magasin-là, non seulement il fallait faire la queue, non seulement il fallait se désinfecter les mains, mais en plus c'était obligatoire de porter un masque. Alors que les règlements en Suisse et les lois n'obligent pas à porter de masque, je me suis demandé quand même s'il n'en faisait pas un petit peu trop. Est-ce qu'il n'y a pas un côté très suisse à vouloir toujours faire mieux que les autres, que tout soit tip-top, propre en ordre. Et puis, quelle est cette manie d'être irréprochable, cette valeur de l'excellence qu'on trouve dans notre pays et qui est pas toujours dite, hein, qui est souvent diffuse dans la population. Donc, j'ai décidé d'appeler Alex Capus. Alex Capus, c'est un écrivain qui est né en France, mais qui vit depuis qu'il est enfant en Suisse, à Olten. Et qui est un bon observateur de la réalité suisse, avec beaucoup d'ironie, un peu de cruauté, et puis en même temps de la bienveillance.
La vie au temps du coronavirus.
Alex Capus, il a écrit plusieurs livres qui racontent notre suissitude. Il y a Le Roi d'Olten, consacré à sa ville, et puis un de ses derniers livres, Au Sevilla Bar, raconte la vie d'un bar à travers les yeux de son patron. Parce qu'Alex Capus, en plus d'être écrivain depuis quelques années, il est patron de bar à Olten. Alors son vrai bar ne s'appelle pas le Sevilla, mais le Galicia. Avec lui, j'ai envie de comprendre si nous, Suisses, avons une manière particulière dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à nos voisins, ou même comme petit pays au centre de l'Europe. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il pense de la manière dont nous, Suisses, vivons cette pandémie. On a fixé un rendez-vous, et donc je vais l'appeler dans son bar.
Alexia Brad de l'Alex.
Bonjour, c'est Cyril Desprez.
Ah oui, bonjour.
Ça va?
Ça va bien et vous?
Ouais, ça va bien, je vous remercie. J'ai pas compris ce que vous avez dit.
J'ai dit, enfin en suisse allemand, j'ai dit, ici le Galicia Bar, c'est Alex qui vous parle. Parce que ici, dans ce bar, on se tutoie.
Ok.
Mais là, le bar est fermé, on peut se vouvoyer si vous voulez.
Alors,
Hein.
non, mais je le ferai avec plaisir, mais ça se fait pas. C'est
Oui,
pas la
non mais
règle.
quand vous passerez ici, voilà.
D'accord, volontiers. Comment allez-vous, Alex
Ça
Capu?
va bien, enfin je m'ennuie un petit peu, j'étais en train de jouer une partie de billard contre moi-même.
Oui. Et puis.
J'étais en train de gagner, bien entendu, mais je joue très mal par manque d'ambition contre moi-même.
Mais quand on joue seul contre soi-même, mal, ça change rien.
Oui, on n'est quand même pas satisfait,
Ah, c'est ça.
c'est pas le même plaisir comme voilà.
Et là, je vous appelle dans votre bar, le Galicia.
Oui.
C'est triste à mourir, hein. Un patron de bar seul dans son bar.
Oui, c'est vrai, c'est triste. Bon, enfin, j'ai ma table de billard à ma disposition, un café très correct et tout, j'ai tout ce qu'il faut, mais il manque les copains, c'est triste. Je bois mon café tout seul en terrasse. J'observe le trafic qui augmente. Vous avez remarqué, il y a un trafic comme si rien n'était.
Ouais. Et à quoi est-ce qu'il ressemble votre bar fermé?
Et là, c'est un endroit un peu hanté, quoi. Il y a les chaises sur la table. Tout est très propre, mais il y a la poussière quand même, un petit peu, qui se pose partout. Je me demande d'ailleurs où elle vient, cette poussière, parce qu'il n'y a personne qui pourrait faire de la poussière, quoi. Je ne sais pas. C'est un miracle. Il y a quand même des choses qui se produisent du néant. Hein?
Ouais. Ah ouais, donc ça
Voilà.
vous fait pas mal turbiner le cerveau quand même, tout ça.
Oui, par manque de distraction, quand même, ça me permet de passer mon temps à écrire des choses, ce qui est quand même mon métier principal. Mmh. Ça, c'est bien.
Il est fermé depuis le 13 mars.
C'était le 16.
Le 16.
Ouais, le 16 à minuit. Ouais.
Comment ça s'est passé cette dernière soirée?
Eh bien, comme vous savez, le Conseil fédéral a mis du temps à nous communiquer ce qu'il fallait faire. C'est à 17h que la nouvelle est tombée, qu'il fallait fermer à minuit. Mmh. Et bon, j'ai plus rien encaissé pour fêter ça. C'était une tournée du patron après l'autre. Oui. Les clients étaient tristes et contents en même temps. C'était une belle fête un peu mélancolique. Voilà. Et puis après, à minuit, citoyens sages comme nous sommes, on a fermé, quoi.
Mmh. Vous êtes embrassé?
Non. Sauf avec ceux avec lesquels c'est vraiment indispensable. Mais non, on n'exagère pas quand même, un petit peu.
D'accord. Et c'était une fête à la fois joyeuse et mélancolique.
Oui.
Vous aimez ça, hein, la mélancolie?
Ah oui, je trouve que ça correspond très bien à mon état d'âme en général. Je suis quelqu'un de joyeux et mélancolique.
Et avant que le bar ferme, vous avez beaucoup parlé du coronavirus avec les copains?
Ah oui, oui, quand même. Et puis moi, j'essaye de ne pas exprimer trop de convictions fortes et de ne pas raconter de bêtises. C'est une bonne occasion de la fermer pour une fois et de ne pas raconter des choses qu'on pourrait regretter plus tard.
Mmh.
je trouve, hein, surtout par écrit, les écrivains. Moi, je bien sûr, on m'a beaucoup demandé mon avis et tout ça, mais j'ai pas d'avis là-dessus. Je fais confiance au Conseil fédéral et aux experts et j'en sais pas plus qu'eux, quoi, c'est clair. J'en sais beaucoup moins, c'est clair.
Donc vous gérez la discussion, vous donnez un cadre, mais vous n'intervenez pas.
Non, je n'interviens pas. Non. J'écoute avec, des fois, ça m'agace ce que les gens ont à dire. C'est très souvent les mêmes salades qui répètent. Et bon, je ne me mêle pas.
Qu'est-ce qui vous agace?
Bon, personnellement, je ne juge pas, hein, mais dans la vie de tous les jours, ça m'agace ces mesures de sécurité, même si c'est indispensable, je veux bien le croire, mais dans la vie de tous les jours, c'est agaçant de faire la queue et c'est très jaune à la poste et ces vitres en plexi devant tout être humain qu'on croise, tout ça, ça me... Et maintenant, les masques, là, je refuse. Je reste à la maison. Si on m'oblige de porter un masque, je refuse.
Donc c'est tout ce qui coupe le relationnel ou qui l'entrave.
Oui.
Vous êtes un observateur de la vie des Suisses, Alex Capu. Un peu à plusieurs titres, parce que vous n'êtes pas né en Suisse, vous êtes né en Normandie, même si vous êtes venu très tôt en Suisse.
Oui.
Vous avez fait des études en anthropologie, ce qui est censé aider à comprendre un tout petit peu mieux comment on fonctionne et qui nous sommes. Et puis, vous avez écrit aussi, vous avez fait des chroniques, hein, en Suisse romande dans le Matin Dimanche, il y a quelques années.
Ah oui,
et
c'est puis, vrai, oui.
Vous vous rappelez? Et puis, certains de vos livres, comme Le Roi d'Olten ou le Au Sevilla Bar, justement, où on parle de ce bar galicien que vous avez baptisé Sevilla, vous êtes attentif aux petits détails de l'existence. Vous avez, je trouve, un regard à la fois ironique, moqueur, parfois un petit peu cruel, et puis en même temps bienveillant sur nous. Qu'est-ce qui vous frappe le plus?
Bon, alors là, je vais être très franc. ce qui me frappe le plus, c'est que, justement, votre question, dans le fond, c'est ce qui me frappe le plus. C'est cette manie, cette obsession des Suisses de se sentir unique au monde.
D'accord.
Même en face d'un virus qui est globalisé et qui frappe tous les pays du monde par la même manière. Et quand même, les Suisses, ils ont quand même besoin de se sentir uniques envers ce virus. Et nous avons une manière unique de gérer la chose, alors que c'est pas vrai, je trouve. Hein. Plus ou moins, nous agissons tous partout de la même manière. C'est bien sûr, en Suisse, c'est moins draconique qu'en France. La France qui a un État très fort. Et la Suisse a un État faible, plutôt faible, parce que les citoyens sont très sages, alors que les Français sont anarchistes. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'un État fort pour être gouvernés. Chez nous, c'est même pas la peine parce qu'on obéit de toute manière, donc on n'a pas besoin d'un État fort. Et bien sûr, il y a des nuances, je dirais, dans la manière de gérer les choses. Les Suédois le font encore d'une autre manière, les Autrichiens encore, les Allemands aussi. Mais tout ça, c'est des nuances. Et nous, nous sommes quelque peu, peut-être au milieu de tout ça déjà, géographiquement, mais aussi par rapport à la dureté des mesures qui sont prises, je trouve. Et la seule chose qui est peut-être vraiment unique, c'est la médiocrité.
Que vous percevez où et comment?
La médiocrité?
Oui.
Déjà, parlons du virus, là. C'est bien, nous sommes pas draconiques comme les Français, mais pas non plus, nous faisons pas un laissez-faire, allez-y, comme ça, comme les Suédois. On est un peu au milieu, n'est-ce pas? C'est... Mm-hmm. Et voilà, on est heureux. L'excès n'est pas helvétique, n'est-ce pas?
Non. Donc, à la fois, si je vous comprends bien, on est totalement dans la banalité, dans le milieu, dans la médiocrité, et en même temps, on n'arrête pas de fantasmer le fait qu'on serait unique, c'est ça?
Voilà, enfin, il faut pas, on pourrait aussi dire qu'on est pragmatique, qu'on est équilibré, si vous préférez ce mot à la médiocrité.
Ça suscite quoi comme sentiment en vous, cela?
Au fond, je l'aime, je trouve ça très bien. Écoutez, c'est des fois un peu ennuyeux, c'est clair, même à Autun, on peut s'ennuyer à mort, c'est vrai.
Ouais.
Mais j'ai beaucoup voyagé dans des pays très intéressants, passionnants, où se passent des choses vraiment intéressantes. Mais quand on parle aux gens, disons au Mexique, où il y a une criminalité excessive, ils nous envient, ils n'ont pas envie d'avoir une vie de tous les jours intéressante, passionnante, dangereuse. Ils nous envient pour notre vie de tous les jours ennuyeuse. L'être humain vit bien dans des endroits ennuyeux, pas dans des endroits intéressants ou dangereux. Donc, c'est un privilège de s'ennuyer.
Ouais.
Et pour revenir au virus, je trouve que notre gouvernement gère ce problème d'une manière quand même qui me convient à moi. Je trouve c'est raisonnable et ça me convient, quoi. Je n'ai rien à critiquer.
Vous avez évidemment vu la petite phrase d'Alain Berset, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Ça vous
oui,
paraît très...
C'est d'une sagesse pragmatique admirable. Mm-hmm. J'avais le sentiment que quelqu'un s'occupe de moi aussi. C'est pas Boris Johnson ou Donald Trump, n'est-ce pas?
Mm-hmm. En même temps, Alex Capu, vous avez signé une lettre ouverte, une supplique du bon peuple suisse au Conseil fédéral, qui est un texte
oui,
qui a été rédigé par plusieurs personnalités, notamment des
Antoine Jacou, entre autres. Ouais.
Antoine Jacou, exactement. Dont vous qui dites, magnifique ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, très cher Conseil fédéral, cela dit, continuez à nous protéger, notamment sur les questions environnementales qui sont effectivement et évidemment un danger beaucoup plus grave que le coronavirus. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas endormi par le climat ambiant qu'on trouve en Suisse.
Au début, j'étais occupé par le virus, là, ce sujet-là. Mais maintenant, je me dis, effectivement, il y a d'autres dangers bien plus graves encore qu'il faudrait vraiment gérer avec la même attention comme on a géré ce danger du virus. Le changement climatique met en cause notre manière de vivre à long terme. Et puis, il faudrait vraiment qu'on agisse tout de suite avec la même fermeté comme on a fait preuve contre le virus. Par hasard, on a eu une période de sécheresse pendant le shutdown, là, pendant ces 6 ou 7 semaines. Pas une goutte qui est tombée du ciel. Ça me préoccupe dans le fond beaucoup plus que le coronavirus.
D'où cette lettre et d'où le fait que vous souhaitez vous adresser au gouvernement, vous souhaitez secouer peut-être aussi un tout petit peu cette...
Que nous nous réveillons aussi et que nous nous rendons compte des autres dangers aussi qui nous menacent.
Mm-hmm. J'ai encore une question quand même sur le peuple suisse, si cette catégorie existe.
Ah oui, déjà ça, oui.
Ouais, déjà ça, oui. Non, mais il faut pas être dans l'essentialisation, évidemment. Mais je me demandais si vous aviez aussi cette impression que en chaque Suisse, il y a un policier qui sommeille. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le nombre de cas de délation par rapport au non-respect des normes de distanciation sociale,
Oui,
notamment, a
oui.
augmenté. J'ai même vu qu'à Genève, des voisins avaient appelé la police parce qu'ils se plaignaient que des gens fassent des concerts sur leur balcon. Au fond, ce côté un petit peu délateur du Suisse, est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe aussi?
Oui, ben je le déplore aussi, bien sûr, cette manière de dénoncer son voisin, mais c'est pas typiquement suisse, je vous le rassure. Déjà, moi, dans ma vie de tous les jours, je traverse à pied les passages cloutés, même s'il y a un feu rouge. Hein, quand il n'y
D'accord.
a pas de voiture, je traverse.
Ouais.
Et les autres me laissent traverser sans me faire des remarques. Hein, c'est peut-être mal vu, mais on laisse faire. Alors qu'en Allemagne, on se fait engueuler, mais carrément engueuler par des inconnus dans la rue. Et ça, quand même, ça n'arrive pas ici. C'est juste pour vous dire, c'est un trait humain. Et c'est pas, là encore, c'est pas typiquement suisse.
Ça fait pas partie de notre fameux Sonderfall.
Non, non, c'est pas un son de faute.
Vous êtes écrivain? Alex Capu, comment est-ce que on inscrit dans nos consciences individuelles et collectives ce qu'on est en train de vivre?
Ah, je sais pas. Ça, ce que nous vivons va, avec le temps, faire partie de notre mémoire collective et individuel en même temps, et peut-être que ça va nous inspirer à réfléchir et à trouver une manière de vivre moins matérialiste et moins excessive, j'espère, mais enfin j'ose espérer, alors qu'on a quand même découvert que dans le fond, ce qui nous manque ces jours-ci, c'est les contacts sociaux et tout le reste, que les boutiques à fringues soient fermées, mais on s'en fout. C'est pas un besoin primordial d'aller acheter des vêtements ou d'aller chez le fleuriste. On peut s'en passer de tout ça ou de prendre un avion pour passer 10 jours sur les îles Caraïbes. On peut vivre très bien sans tout ça. Ça, on l'a fait l'expérience maintenant, je crois.
On a fait l'expérience, effectivement. Ma question, c'est comment est-ce que cette expérience-là, on peut l'inscrire et quel peut être le rôle de gens comme vous, de gens de la culture, des écrivains, pour qu'il en subsiste quelque chose?
Ah là, le rôle de l'écrivain. Écoutez, moi je chante ma chanson, je danse ma danse, mais à part ça, je ne fais pas d'illusions en ce qui concerne mon influence. Et il faut toujours une certaine distance pour pouvoir raconter une histoire. C'est une loi de l'optique aussi, n'est-ce pas? Si on est trop près de l'objet qu'on observe, on n'arrive pas à focaliser. Et c'est la même chose avec les histoires. Il faut qu'un certain temps soit passé avant qu'on puisse raconter l'histoire, c'est-à-dire de donner un sens à ce qui s'est passé, ou de même d'inventer un sens s'il n'existe pas.
Et vous trouvez que ce qu'on vit aujourd'hui mérite des histoires?
Sans doute, mais on en parlera dans quelques années.
Je vous ennuie.
Comment?
Est-ce que je vous ennuie?
Oui, un petit peu, oui, franchement.
Pourquoi? Parce que c'est trop sérieux?
Non, parce que je suis quelqu'un de plutôt timide. Je n'ai pas envie d'exprimer des convictions fortes et en même temps provisoires.
Ouais.
Je me méfie de tout ça.
Ok, je comprends. C'était par rapport à vous, parce que vous vous nourrissez quand même de plein de choses, et pour nous, c'est important, nous qui savons lire mais ne savons pas écrire, c'est important d'avoir des gens qui écrivent.
Oui, mais écoutez, je mets un temps fou à donner un sens à ce que j'écris. Et je souffre là en ce moment, je suis en train d'écrire quelque chose. Espérons que ça sera pas un roman, mais j'ai de la peine et j'ai des scrupules et je réécris et j'efface. Et voilà, c'est ma manière et je n'ai pas envie de, voilà, d'exprimer des opinions provisoires. Ça ne me convient pas.
On est aussi environné de beaucoup de bruit aussi.
Oui, voilà, de faire du bruit, oui. D'ajouter du bruit au bruit qui existe déjà. Oui.
D'accord. Bon, ben on va se taire alors. Bon, je vous remercie infiniment de m'avoir donné un tout petit peu de votre temps.
Merci à vous.
Comment est-ce que vous imaginez le premier jour de la réouverture ? Vous nous avez décrit la dernière soirée. Comment se passerait la première la réouverture ?
Ça risque d'être une très belle fête. On va certainement pas ouvrir à 16 heures seulement comme d'habitude, mais nettement plus tôt. Mmh. Et puis, il y aura sans doute la musique, et puis on va offrir à manger aux clients, et puis ça va être une belle soirée conviviale.
Vous y pensez déjà ?
Ah oui. J'espère que le Conseil fédéral décidera qu'on peut réouvrir avec certaines mesures de sécurité le 11 mai, et je me prépare à ça. Sinon, ça sera le 8 juin, on verra.
Mmh. Mmh. Bon, avec tout ce que vous avez dit de positif sur Alain Berset, il va vous faire une petite dérogation, je pense.
Ah oui, j'espère, je compte sur lui, mon camarade Alain.
Très bien, merci beaucoup Alex Capu. Bonne suite à vous, prenez soin de vous et de votre famille.
Allez, merci à vous, tout bon. Hein.
Ouais, merci,
au
vous
revoir,
aussi.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir. Le silence de mon bureau, un matin de pluie, le froissement des pages qui se tournent, le temps qui s'écoule, le murmure des phrases dans ma tête. Fin de ce podcast, on se retrouve dans quelques jours, je ne sais pas encore très bien avec qui, j'ai quelques idées. J'aimerais faire quelque chose autour de l'avenir, parce qu'on ne sait pas très bien vers quoi on va. Je suis sensible aussi à tout ce que, depuis mon semi-confinement, je n'ai pas vu, je n'ai pas su, je n'ai pas entendu, et qui existe. Et puis, j'aimerais bien faire un podcast sur les rêves. Est-ce que nos rêves ont changé depuis 6 semaines ?
La vie au temps du coronavirus.
Donc, à tout de suite et prenez soin de vous.
La vie au temps du coronavirus, un podcast de la RTS produit à la maison par Cyril Desprats, Didier Rossa, Grégoire Moll et Magali Philippe. Il est présent sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et évidemment Play RTS. Afin de ne manquer aucun épisode et de retrouver les anciens, abonnez-vous.